Anatole Le Braz, au vent des îles, Yanni Grook. Le ciel est immense. Des stries de nuages s'y balancent doucement comme les sillons des vagues sur la face de la mer. Les brumes matinales se sont levées et voici monter des eaux trégoroises des monstres inattendus. Ce sont les îles sœurs, au nombre de 7, chiffre fatidique. Elles se suivent à la file, semblent nager comme en procession l'une derrière l'autre. La Grande Tomée, plus voisine de la terre, surveille, dirait-on, leurs ébats avec des yeux indulgents d'aïeul. Quant aux jeunes îles, elles s'aventurent hardiment au large. Elles sont blondes sous le soleil, du blond soyeux et délicat des cheveux d'enfants en Bretagne. Derrière elles, très loin, tout au fond de l'horizon, le phare des Triagos pointe comme la houlette d'un pasteur des flots. Autour de notre barque, la mer donne l'impression d'un pré mouvant tant elle est couverte de goémons, d'algues, de longues herbes étranges, de lianes marines. Une croupe de bêtes préhistoriques, la queue mince, quasi rattachée encore au continent, la tête plus monstrueuse que le corps et tournée vers le large, telle est Tomée. On l'appelle en breton Taféac. Un gazon foisonnant, roussi au vent de mer, lui fait un pelage de fauve. J'y débarque seule par ce clair matin d'août. C'est une exquise sensation que celle du dépaysement absolu quand on sait qu'il ne doit pas trop durer. Il me revient du fond de mon enfance le rêve qui me fut si cher autrefois d'une vie à la Robinson. L'île est déserte, ou paraît l'être. Déserte d'humains s'entend, car elle est toute peuplée d'oiseaux marins. Près de moi, une troupe de goélands sèche sur une roche leurs ailes éployées. À un mouvement que je fais, ils s'envolent, mais sans hâte, d'un essor grave, comme des gens polis qui se lèveraient à l'approche d'un étranger. On dit en Bretagne que les goélands vivent très vieux. Ceux-ci ont l'air de patriarches avec leur ventre blanc et leurs allures solennelles. Ils devaient être déjà de ce monde lorsque Saint-Quirec, venant d'Hibernie, aborda en ces lieux. Ils l'ont vu arriver dans son auge de pierre, tendant au-dessus des eaux, en guise de voile, un pan de son manteau de bure. Je n'ai rien de commun avec Saint-Quirec, hélas, si ce n'est d'être un des derniers fils de sa race proscrite, un des derniers songeurs que hante encore le spectre mélancolique du passé. J'imagine pourtant qu'au lendemain de la tempête saxonne, il dut, en prenant terre aux grèves de Taféac, éprouver quelque chose d'analogue à ce que je ressens. Ce repos, cette fraîcheur soudaine qui détend l'âme et qui l'embaume toute au contact d'un pays vierge, ce grand silence, ce calme de l'isolement qui s'infiltre en vous comme un bien-être mystérieux. J'escalade des roches, je franchis une haie d'épines sauvages, et me voilà au milieu d'un beau champ de blé. Il y a donc des hommes ici ? Un sentier battu longe la côte, un petit sentier de corniche. Les hauts épis, lourds de grains, me frôlent au passage. Au bout du champ, un échalier. Je suis dans une cour, jonchée de bouses et de goémons. Assis sur un tas de fougères fraîchement coupées, un enfant dépouille un congre. L'énorme anguille traîne à terre, écorchée à demi. Ma présence ne dérange en rien le gamin, qui continue en paix sa besogne sanglante. Je lui demande en breton, « Gars, c'est toi qui demeures en cette maison ?»« Oui, avec mon père et mes deux sœurs. Ma mère est morte. » C'est à peine s'il a levé les yeux. La maison est en galets de grève cimentés d'argile, un toit de vieilles ardoises brodées de lichens grisâtres qui ressemblent à des cristallisations, une porte basse, une lucarne munie d'une barre de fer dentelée comme une crémaillère, ça et là, devant la façade, des outils de labour pêle-mêle avec des engins de pêche. Une grande belle fille vient d'apparaître sur le seuil. Elle m'a entendu parler breton à son frère, elle m'accueille avec une rudesse aimable. « Entrez hardiment, vous trouverez escabeau pour vous asseoir. » Tous ces intérieurs de Basse-Bretagne ont la même étrangeté. Il y règne je ne sais quelle ombre religieuse où l'on a peine d'abord à s'orienter, tentait pas les discrets le mince rayon de lumière que laisse filtrer l'unique fenêtre. C'est une obscurité bleuâtre, une atmosphère nocturne de rêve. Les choses n'y ont ni contour ni forme. Seule une statue toute neuve, une vierge en plâtre d'un blanc cru, fait une clarté au fond de la masure. Cela vous donne l'impression d'être dans un oratoire, dans un de ces sanctuaires moisis du pays armoricain qui ne s'ouvre qu'une fois l'an, le jour de la fête patronale. La grande fille qui m'a précédée époussette du coin de son tablier un des bandelâtres. Je m'y installe. La conversation s'engage. Tout en allant et venant à travers la maison, en dressant le couvert pour le repas du matin, mon hôtesse m'apprend qu'elle a nom Rose Kervégan et que depuis des générations, les Kervégan sont fermiers de l'île. Autrefois, dit-elle, nous étions à l'aise et rien ne manquait chez nous, ni la viande de boucherie, ni le cidre, ni même le bon vin, à ce que nous a conté notre père. Il a connu ces temps-là, il s'en souvient, quoiqu'il fût alors plus jeune que mon frère Yvick. Aujourd'hui, nous ne sommes plus que des gens de misère, c'est le train du monde. Mais il y a toujours un morceau de pain et une écuellée d'eau claire pour le passant. Mon père et ma sœur Mona ne vont point tarder. Vous mangerez avec nous si le cœur vous en dit. Je ne demande pas mieux, mais que tout soit en commun. Je vide sur la table les provisions que j'ai apportées de la grande terre et dont je croyais déjeuner seul dans quelque recoin de Tafeak. Oh, oh, s'écrie la fille, vous êtes un mangeur de pain blanc, vous. Du reste, cela se voit à vos habits. Si j'avais prévu que vous eussiez le bissac si bien garni, je me serais donné garde de vous convier à notre repas de pauvres. Vous auriez eu tort. Le père vient d'entrer. C'est un homme de haute taille, aux traits énergiques, aux yeux très doux et presque enfantins. Une figure de Forban, placide. Il ne paraît nullement surpris de me trouver là. « Beau temps, n'est-ce pas ? » dit-il du ton le plus naturel, et comme si ma présence sous son toit était chose coutumière. Superbe, en vérité. Il n'y a pas eu de glace à rompre. Nous causons déjà comme de vieux amis. Mona, une fillette à peau brune, aux yeux aigus et sournois tout ensemble, jette à poignée dans la marmite des crevettes qui frétillent encore. Yvick, le garçonnet, fait une entrée triomphale d'Hercule enfant, ses deux poings retenant la gueule du congre jetée en travers sur son épaule, le corps ployant sous le cadavre du monstre frais écorché, tout heureux de montrer sa force devant un inconnu. Brusquement, il lâche la bête, la contemple un instant, allongée à terre, puis prend plaisir à l'enrouler plusieurs fois sur elle-même, comme un agrès sur le pont d'un navire. La belle Rose me désigne ma place, la place d'honneur, au bout du banc, près de la fenêtre. J'ai rarement déjeuné d'aussi bon cœur. Par instants, de grands vols d'oiseaux blancs passent dans le champ de la lucarne. Des mouches dorées bourdonnent dans les plis des petits rideaux retenus par de minuscules embrasses. À la cloison de bois brut, en face de moi, s'effiloque une vieille image où se voit le Boudédéo, le Juif errant, enjambant des villes et des fleuves, et où se lisent encore quelques couplets de sa complainte bretonne. Mes yeux se sont habitués aux douces ténèbres qui emplissent la pièce. Je distingue, çà et là, des cadavres de meubles, un bahut croulant, une gaine d'horloge dont le balancier dort immobile, un lit enfin, le seul visible. Des yeux en trous de vrille de la taciturne Mona ont suivi mon regard. « Le monsieur, dit-elle en s'adressant à son aîné, s'étonne de ce qu'il n'y a qu'un lit dans la maison. Il ne sait pas qu'Yvick et le père couchent sur du varech dans le grenier. « Oui, continue Job Kervégan, le chef de famille, et nous y dormons plus souvent de jour que de nuit. Vous n'êtes ni gabelou, ni employé de la régie, je peux bien vous faire cette confidence. Voyez-vous, c'est pour les pauvres gens de la côte que le bon Dieu a créé la nuit. Sans elle, je me demande ce que nous deviendrions. Comment voulez-vous qu'on vive avec quelques boisseaux de blé et 500 ou 600 de pommes de terre? Heureusement, la mère est là. La mère est la pourvoyeuse de ceux qui n'ont que leurs bras, leur faim et leur misère. Elle nous donne, bon an mal an, 15 douzaines de homards que les filles vont vendre à Perros. Mais elle est surtout la mère aux épaves. Les épaves, c'est notre vraie moisson. Vieux bois, vieux fer, cela se transforme en beaux écus. La récolte dure toute l'année, depuis l'heure où s'allument les phares, les feux de nuit, jusqu'à celle où l'aube commence à poindre. Par exemple, il faut y mettre sa peine, gare aux douaniers. Ces oiseaux du gouvernement se tiennent perchés au haut des falaises. Ils sont toujours prêts à s'abattre sur vous, comme des cormorans sur une proie. Ce n'est pas que je leur en ai rancune, ils font leur métier. Ils gagnent leur pain à leur façon, comme nous le nôtre. Mais notre façon à nous est plus dure. Ah, il n'en était pas ainsi du temps de ma jeunesse. Puisque vous avez habité Penvénan, monsieur, vous avez dû entendre parler de Yann Igrok. Certes, oui. Vous voyez en moi le dernier survivant de ses 13 fils. En disant cela, Job Kervégan, à qui j'ai tendu une gourde de rhum, s'en verse une pleine rasade et l'avale d'un trait. Ses yeux brillent d'un orgueil naïf. C'est sa noblesse à lui, cette parenté avec le pirate, le plus ingénieux, le plus jovial, le plus férocement drôle dont on s'entretienne aux veillées d'hiver en ces parages. Si j'ai entendu parler de Yann Igrok, il a été le cauchemar de mes sommeils d'enfant. Aujourd'hui encore, quand il m'arrive d'être distrait par les craquements sourds d'une charrette qui passe au loin dans la nuit, je me souviens aussitôt de ce croque-mitaine bas breton, j'évoque mes terreurs d'autrefois dans la grande chambre de Penvénan, et je me dis « c'est le chariot de Yann Igrok ». Si l'on m'avait consulté hier sur l'authenticité du personnage, j'aurais probablement répondu que Yann Igrok, comme Yann on Aude, Yann Ivazwarn et tant d'autres Yann, ou grotesques ou malfaisants, devaient être une figure de légende, le type mythologique du fraudeur tel que l'avaient pu rêver des imaginations de vieilles femmes sur le littoral armoricain. Eh bien non, Yann Igrok a existé, Yann Igrok a une histoire que je vais connaître, et c'est son propre fils qui va me la conter. Béni en soit Notre-Dame de bonne fortune qu'on invoque à confort en faisant tourner sa roue garnie de clochettes. J'éprouve l'émotion ingénue d'un chasseur qui, sorti pour une simple promenade, voit tout à coup un lièvre magnifique venir se jeter affectueusement dans ses bras. « Comment ? Vous êtes le fils de Yann Igrok ? Buvons à sa mémoire, Job Kervégan. Mais dites-moi, est-ce bien vrai tout ce qu'on raconte de lui ? J'ai visé juste, j'ai piqué au vif mon interlocuteur. Les terriens, monsieur, racontent son histoire, mais ils n'en ont jamais eu que les miettes. Venez, quand je parle de lui, moi, il me faut le grand air. » Au sortir de la maison, c'est un éblouissement. Tout flambe dans la lumière intense de midi. La mer, le ciel, de l'or en fusion. L'île flotte là-dedans comme un lingot gigantesque. Le continent, vers le sud, semble une fumée légère, volatilisée. Il fait très chaud, avec de grands souffles frais qui passent de temps en temps et vous épongent. Nous grimpons un raidillon, les oiseaux blancs tourbillonnent au-dessus de nos têtes, on se croirait au flanc d'un Sinaï, ou mieux, de l'Horeb, le buisson ardent brûlant là-haut. C'est l'heure de la basse marée. D'immenses prairies jaunes s'étalent à nos pieds, à perte de vue. Les grèves paraissent toutes frissonnantes de colza en fleurs. De toutes parts monte une odeur âcre, singulièrement forte, et vivifiante, et saine. Le gaïvic, vautré dans l'air, entonne d'une voix aiguë, d'une voix de courlis, une chanson sauvage, au final mélancolique, qui se doit entendre à des lieux. Les paroles mêmes ont une surprenante netteté. Elles arrivent jusqu'à nous, élargies par le milieu sonore et cependant très précises. Jeunes gens de l'autre côté, si vous avez envie d'apprendre à danser, vous n'avez qu'à descendre à Port-Blanc. Là est le maître des danseurs. Et chaque dimanche, après souper, ont lieu les danses à Crèque-Morvan. Cette chanson que vous écoutez, me dit Job Kervégan, a été faite par mon père à son ami Noël Kerlo. Ce n'est pas pour le vanter, voyez-vous, mais cet homme-là avait tous les dons. S'il avait voulu, Yann Arguen, le grand rimeur, n'eût été qu'un enfant de cœur auprès de lui. Mais il avait bien d'autres choses en tête. Nous sommes parvenus au point culminant de l'île, le merveilleux décor. Un archipel groupé harmonieusement et comme en de nobles attitudes. La mer retirée tout au fond du ciel, suspendue très haut dans le lointain, ainsi qu'une grande moire d'or. À droite, à gauche, des promontoires lumineux, l'un d'eux portant en croupe un sanctuaire dédié à Notre-Dame de la Clarté. Çà et là, des sémaphores, maisonnettes blanches au toit blanc, accroupis comme des roufs de navires au pied de leur mât. Dans une anse, au milieu d'un fouillis de verdure, le bourg de Perros-Guirec, des bleus clairs d'ardoise, un clocher de granit rouge pointant au-dessus. Nous nous asseyons dans l'herbe courte et drue, dans cette herbe des îles qui ne verdit jamais, qui grisonne l'hiver comme une chevelure de vieillard, et se reprend à blondir l'été comme des frisons d'enfant. La terre chauffée exhale une tiédeur douce et qui sent bon. Des houppes d'un rose délicat et pâle, les fleurs d'une espèce de trèfle marin, émaillent autour de nous le gazon. Job Kervégan a bourré sa pipe. Il a aux lèvres un léger fil de bave comme on en voit pendre au fanon des bœufs. Il raconte, d'une voix lente, avec des pauses, de soudain silence, des recueillements pendant lesquels ses yeux se voilent comme repliés dans la contemplation de ses souvenirs. C'est un poème, une épopée d'une majesté tour à tour sauvage et grotesque que cette histoire de Yann Egrauk. J'en veux fixer ici quelques épisodes, avec le regret toutefois de ne les point transcrire dans la langue même du fermier de Taféac. En pareil cas, ce n'est pas seulement le récit, c'est encore l'accent du conteur qu'il faudrait pouvoir rendre. Il doit y avoir de ceci environ 80 ans, monsieur. Notre famille habitait à Tromeur, là-bas, dans la Grande Terre, un moulin à vent dont les ailes tournent encore. Mon aïeul était meunier, de son état, mais il était surtout fraudeur par vocation, et aussi par besoin, car la maisonnée était nombreuse. Quand il se rendait chez ses pratiques, dans sa petite charrette attelée d'un bidet de cornouailles, il était bien rare qu'il ne transportât point quelques ballots de marchandises prohibées, dissimulés sous les sacs de farine. Mon Dieu, il ne faisait en cela que suivre la mode du temps, car les meilleures familles de la contrée se livraient alors à la contrebande. Je pourrais vous citer des noms de riches, en honneur dans le pays, dont la fortune n'a pas d'autre origine. Mais ce n'est pas de quoi il s'agit. Les maltôtiers surveillaient d'un œil méfiant le meunier de Tromeur. Lui plaisantait volontiers avec eux, étant jovial de son naturel, et volontiers leur payait chopine, alors surtout qu'il venait de leur jouer quelques bons tours. Un soir, il prit à part mon père, qui était le plus jeune de ses enfants et n'avait pas encore fait sa première communion. « Yann, lui dit-il, j'ai dû laisser dans les pierres de Bruck, sous le rocher de la jument, un sac de tabac fin. Va flâner de ce côté, à la nuit tombante, et tâche de rapporter le sac, mais veille bien au gabelou. » Au trouble de nuit, Yann dévala vers la grève. C'était déjà un garçon futé, quoiqu'il n'eût pas encore 10 ans. Voyant venir un douanier qui allait prendre sa faction dans ses parages, il se mit à siffloter et à muser de roche en roche, faisant mine de chercher des patelles. Il arriva ainsi jusqu'à la jument, cette grosse pierre que vous apercevez d'ici. Le sac était lourd. Yann se disposait à le traîner entre les galets quand le douanier, qu'il croyait loin, surgit tout à coup derrière lui. « Ah, maudit avorton, je t'y pince! Cette fois, nous la tenons, l'engeance des Kervégan !» Au lieu de fuir, l'enfant s'était couché sur le sac, s'y cramponnait des deux poings. Le gabelou avança la main pour lui faire lâcher prise. Yann la lui mordit jusqu'au sang, de ses dents aiguës comme celles d'un blaireau. « Malédiction rouge !» hurla l'homme, et dégainant son sabre court, « Tu lâcheras cependant, vilaine vermine !» Le poignet de Yann fut presque tranché du cou. Le gabelou emporta le sac, laissa là le garçonnet évanoui. Celui-ci ne revint à lui qu'à la marée montante, quand déjà les vagues lui léchaient les joues. Il eut juste assez de force pour rentrer à Tremeur, avec sa main pendante qui saignait tout le long du chemin. comme au temps où le petit Yann eut le poignet à demi coupé dans la grève de Bruck, la mer monte par douces saccades, ou plutôt semble descendre vers nous du fond mystérieux de l'horizon. Le flot envahit les grandes prairies dorées avec une lenteur mesurée et en quelque sorte rythmique. Il balance les algues, redresse les goémons, promène sur les végétations marines sa belle ondée calme et réparatrice. Ah, ces gouttes de sang tombées de la main de l'enfant breton, la mer les a bues comme bien d'autres. Qui sait pourtant si ce n'est pas elle et non les varechs qui font là-bas sur les pierres ces larges taches rousses. Mon père en resta manchot, après une fièvre dont il faillit mourir. On pansa son moignon avec de l'eau de mer. Plus tard, on commanda pour lui, chez le forgeron de Trélévernes, le fameux croc auquel il doit son surnom. Il va sans dire que Yoni Grook grandit dans la haine des gabelous. La vengeance qu'il tira, jeune homme, du douanier qu'il avait mutilé, enfant, mérite d'être relatée. Ce douanier s'appelait Liscoat. Peu après l'aventure du coup de sabre, il avait quitté le pays. Des années se passèrent. Un beau jour, on apprit son retour au port blanc avec le grade de brigadier. Yann fut le premier prévenu. Il donna rendez-vous à quelques compagnons et le brigadier Liscoat fut enlevé par une troupe de solides gaillards une nuit qu'il faisait sa ronde entre Rocannick et Trestel. On le transporta, ligoté de cordes neuves, au moulin à vent de Trômeur. Kervégan, l'aïeul, était là, qui fumait sa pipe à l'angle du foyer. « Ah ah, c'est toi, monsieur Liscoat, » dit-il, avec sa bonne humeur goguenarde. « Sois le bienvenu chez les meuniers. » Il alla à son armoire, en tira une vieille bouteille d'armagnac provenant d'un naufrage, et en remplit un verre qu'on fit boire de force au gabelou. « Maintenant, Yann, fais à ton gré. Il est assez lesté. Tu peux lui donner de l'air. » Le malheureux fut attaché à une des ailes du moulin, et toute la nuit, les ailes tournèrent, promenant dans l'espace, de leurs grands gestes de roues de torture, gémissantes et sinistres, le cadavre du brigadier. On le retrouva le lendemain, très loin de là, dans une lande. On attribua sa mort à une congestion, et, ajoute Job Kervégan d'un ton paisible, l'État fit une pension à sa veuve. Yoni Grook, dans les récits de son descendant, apparaît comme le génie même de la contrebande bretonne. Il a des inspirations qui déconcertent. Fils d'une race superstitieuse, superstitieux lui-même en ses moelles profondes, il exploite la superstition d'autrui, s'en fait un précieux auxiliaire. Poète, créateur de mythes, il imagine des légendes terribles, qu'il lâche comme une meute pour en écarter le passant à travers les chemins que suivent d'ordinaire ses convois de marchandises. Il les colporte en personne, il les propage, il feint d'en être le premier épouvanté. Des rouliers, le souper mangé, devise devant le feu dans l'auberge. Tout à coup, la porte s'ouvre d'une poussée brusque, Yoni Grook entre pâle, défait, les cheveux en désordre. « Au nom de Jésus-Christ et de la Vierge, logez-moi. Pour rien au monde, je ne retournerai ce soir à Trômeur. » On s'empresse, on l'entoure, les questions pleuvent, une vague angoisse se lit d'avance sur toutes les physionomies, l'attente de l'extraordinaire, le frisson du surnaturel. Ce n'est point un trembleur que Yoni Grook, pour qu'il soit ému à ce point. Le champ est ouvert aux suppositions les plus folles. Et qu'il en profite habilement, le satané luron, ménageant l'intérêt en artiste consommé. Voilà. Je m'en revenais tranquillement de Kerbelven, où j'avais été touché le prix d'une mouture. Soudain, arrivé près de la croix du Logelou, j'entends des cris, des appels, des plaintes. Je regarde, je ne vois rien. Une voix s'élève, plus distincte. « Yann, Yann, tes souliers sont durs. Ne marche pas sur nous, tu nous fais mal. » En même temps, je sens une cuisson, comme si j'avais le feu aux jambes. je me jette de côté dans la douve. Et alors, vous me croirez si vous voulez. Alors je vois de petites flammes blanches courir sur la route et tourbillonner comme les feuilles mortes au vent d'orage. Au milieu de chaque tourbillon, une forme humaine se tordait. Et c'était toutes ces apparences d'hommes ou de femmes qui poussaient les gémissements et les cris. Je dois être blême, n'est-ce pas ? Tout à l'heure, je ne sais en vérité s'il me restait une seule goutte de sang vivant dans les veines. Je marchais du pas d'un somnambule, me déchirant aux ronces des talus, me cramponnant aux ajoncs tellement je défaillais, fermant les yeux pour ne point voir et voyant tout de même, poursuivi tout le long du chemin par une affreuse odeur de chair roussie. Tenez, je la sens encore, mes vêtements en sont imprégnés. On venait le flairer à tour de rôle, et il se trouvait qu'il sentait en effet cette odeur de purgatoire. Dès lors, comme bien vous pensez, le chemin où Yann avait eu de ces visions horribles était classé parmi les routes suspectes, celles qu'un chrétien ne fréquente plus après certaines heures de nuit, sous peine d'être frappé par la folie ou par la mort. Les douaniers eux-mêmes, bretons pour la plupart, partageaient le sentiment général à l'égard de ces voies hantées et s'en tenaient autant que possible à bonne distance. En sorte que les fraudeurs y pouvaient circuler librement, en toute sécurité, protégés qu'ils étaient par la superstition la plus efficace des sauvegardes. Vous a-t-on raconté le tour du cercueil, monsieur ? Ah, elle est merveilleusement imaginée, cette histoire. Un lougre anglais avait débarqué à la côte, au fond de l'anse de Pélinec, un fort stock d'objets de contrebande, du drap, des dentelles, des ballots de tabac, des barils de rhum. Il importait de mettre tout cela au plus vite en lieu sûr et de le transporter à la Roche des Riens, où l'association avait son principal entrepôt. Or, la Roche des Riens est à 3 lieues de Pélinec. De plus, on perdait un temps précieux si on s'en tenait, en cette circonstance exceptionnelle, à la pratique ordinaire qui était de suivre de préférence les sinueux lacis des sentiers de traverse afin de mieux dépister les gabelous. D'autre part, la grande route offrait bien des dangers. La surveillance y était active, continuelle. Enfin, quel moyen de transport employer ? Le plus expéditif était certainement la charrette. Cela permettait de ne faire qu'un voyage, de tout emporter en bloc. Mais c'était aussi courir le risque de se faire arrêter au premier kilomètre et de laisser toute la cargaison aux mains de la maltote. On se réunit en conseil, l'affaire étant d'importance. Chacun ouvrit un avis. Quand tous eurent parlé, Yann Igrok sourit doucement. C'était signe qu'il avait trouvé le vrai joint. La proposition qu'il soumit à l'assemblée fut accueillie par des hurrahs d'enthousiasme. Il faut dire que c'était une idée de génie. Le jour même, elle fut mise à exécution. Yann Igrok se rendit au bourg de Penvénan et se présenta chez le menuisier le plus cossu de l'endroit. « Camarade, dit-il, je suis venu te commander un cercueil. Il y a donc quelqu'un de mort dans vos environs ? Ma foi, oui, et le plus bel homme du quartier. » Aussi faut-il que le cercueil soit de grande dimension et construit en planches solides. Qui est-ce qui paiera ? Je suis chargé de faire les conditions et de verser l'argent. Le mort commence à sentir mauvais, on voudrait que la mise en bière pût avoir lieu avant la nuit. Où devrais-je envoyer le cercueil ? Tes hommes le viendront prendre à la brune si toutefois tu es en mesure de le livrer dans ce délai. Le menuisier promit d'autant plus volontiers d'être prêt que Yann Igrok se montra tout à fait coulant sur le prix. Pendant ce temps, un autre fraudeur se transportait à Saint-Gonval et entrait en pourparler avec le bedeau chargé de l'entretien de cette chapelle, aujourd'hui déchue de son ancien rang d'église paroissiale. Le bedeau se fit un peu tirer l'oreille, et la chose était grave. Il ne s'agissait de rien moins que de prêter pour une nuit la croix d'argent à clochette, le drap mortuaire, une douzaine de cierges et les 4 fanaux qui accompagnaient le dais les jours de grande procession. Après quelques tergiversations chez le bedeau, des offres de plus en plus tentantes de la part du fraudeur, le marché fut cependant conclu. Qui eût été cette nuit-là dans la hétraie de Pélinec, dont les grandes masses sombres se mirent presque dans la mer, eût assisté à un étrange spectacle. Des gaillards, coiffés de suroîts pointus qui les faisaient ressembler à des moines en cagoule, arrimaient méthodiquement dans une bière colossale des objets de toutes formes et de toute nature. Quand on voulut poser le couvercle, il se trouva qu'il ne fermait point. « Amarré avec des cordes, » dit Yann Egroc, « le drap mortuaire couvrira tout. » Et maintenant, c'est un spectacle plus étrange encore. Un de ces cortèges fantastiques comme il ne s'en déroule que dans les légendes ou dans les tableaux macabres. En tête s'avance le grand Yann, portant la lourde croix massive solidement assujettie à son croc de fer. Il a passé sa chemise par-dessus ses vêtements. Il est tête nue, pieds nus. Les petites clochettes, au rythme de sa marche, tintent dans l'air lugubrement. Puis vient le cercueil, soutenu par 10 hommes, et de chaque côté sont 12 adolescents portant des cierges dont les flammes montent, pâles, à peine vacillantes, dans l'atmosphère immobile de la nuit. À quelque distance suit un vieillard. Les 4 fanaux qui l'escortent promènent sur son front dénudé, sur ses longues mèches blanchissantes, de singuliers reflets. On dirait le crâne d'un squelette échappé d'un ossuaire. Un vague surplis couvre ses épaules et tombe presque jusqu'à ses talons. Il accomplit religieusement sa besogne de faux prêtre, tient les yeux fixés sur un grimoire qui lui sert de livre d'heures. Des femmes, des enfants cheminent derrière lui, pêle-mêle, et dans l'ombre grise, embrumée qui déforme tout, choses et gens, entre les hauts talus qui estompent mystérieusement la route, ce bizarre convoi d'enterrement a bien l'air de sortir d'un autre monde, du pays lunaire et fantomatique de la mort. Yann Egroc avait une voix superbe. Par intervalles, il entonnait en un latin de sa façon un couplet de deuil lugubre à faire frémir. Il avait des intonations caverneuses et cependant retentissantes qui roulaient dans la nuit sonore, se répercutaient au loin d'écho en écho. C'était un chant si lamentable que sur le parcours, dans les airs des fermes, les chiens se mettaient à hurler d'épouvante. Le silence après chaque verset semblait plus profond, et ce long défilé d'ombre plus terrifiant. Parmi les fraudeurs même, plus d'un avait la chair de poule. L'idée de Yann commençait à ne leur plus paraître aussi drôle. Beaucoup pensaient, c'est une vilaine comédie que nous jouons là. Pour sûr, il nous arrivera malheur. À Croisard-Barbant, il y eut une alerte. 4 routes se croisent à cet endroit et, comme tous les carrefours, le lieu a mauvaise réputation. Aussi, pour conjurer les sortilèges, y a-t-on érigé un calvaire à l'un des angles. Les fraudeurs venaient de se signer devant le Christ quand, tout à coup, sur le talus, les ajoncs remuèrent. Des têtes parurent, puis des corps. C'étaient les gabelous, toute une brigade, mousquet au poing. « En joue !» commanda le chef. Et en même temps, il sautait sur la route. « Vous allez me dire ce que signifie ce cortège à pareille heure, » fit-il en s'adressant à Yann. Celui-ci ne se démonta point pour si peu. Et c'est en excellent français, d'un ton d'autorité tranquille, avec une nuance de menace qu'il répondit. « Cela signifie, monsieur, que si à l'instant même, vous ne donnez point à vos hommes l'ordre de présenter les armes, ainsi qu'il est d'usage quand passe un prêtre en surplis conduisant un mort, je vous rends responsable du scandale, et avant 24 heures, je vous fais casser. » Et Yon, entonnant un nouveau verset, se remit en marche, suivi de tout le convoi. Sans attendre l'ordre du chef, les douaniers avaient d'eux-mêmes redressé les canons de leurs fusils. La contrebande passa, on atteignit la roche de Rien sans encombre. Cette aventure fut d'ailleurs funeste à Yon Igrok. L'imagination de ses acolytes ordinaires avait été frappée. Ils avaient vu la mort de trop près. Surtout, le sentiment d'avoir commis un sacrilège leur était pénible. Leurs femmes, quand ils rentrèrent au logis, se récrièrent en leur trouvant des mines si pâles et si défaites. Ils devinrent mélancoliques, taciturnes, perdirent le goût du pain, séchèrent sur pied, glacés par le souffle de l'encou qu'ils sentaient constamment sur eux. Il en trépassa dans l'année une dizaine. La même croix d'argent à clochette, le même drap mortuaire, les mêmes cierges qui avaient servi pour le coup de cercueil, les conduisirent l'un après l'autre à l'enclos des tombes dans la trève de Saint-Gonval. Les survivants de la bande se rendirent un soir chez Yon Igrok au moulin de Trômeur. Yon fumait sa pipe, assis sur la marche du seuil. « Je sais ce qui vous amène, » leur dit-il, avant même qu'ils eussent ouvert la bouche. « Vous venez m'annoncer que je n'ai plus à compter sur vous. C'est bien. Retournez à vos champs ou à vos barques, grattez la terre avare, éventrez la mer stérile, vivez et crevez en gueux. Cela vous regarde. Bonsoir. » Et il les congédia du geste, non sans avoir craché sur le sol en signe de mépris. Pour lui, il continua son métier de fraudeur jusqu'à son dernier jour. Ce dernier jour eut un caractère singulièrement tragique. Voici en effet en quelles circonstances disparut Yon Igrok. Je laisse la parole au fermier de Tafeak. Il pouvait être environ 2 heures du matin. Je dormais avec 3 de mes frères en pagaille dans un grand lit clos au bas bout de la maison. Le père vint et nous réveilla durement. Il avait à la main la lanterne sourde dont il avait coutume de se munir quand il partait en expédition. « Ça, Jacques, Pierre, Job, levez-vous, » fit-il. « Vous allez m'accompagner. » Job, c'était moi, comme vous savez. Pierre et Jacques étaient les 2 aînés. Mon frère, François, le 4e des 13 gars qui couchait aussi avec nous, demanda. « Vous n'avez pas besoin de moi ?»« Non, » répondit le père. « Tu peux te recoucher. » « Seulement, si la mère à l'aube s'étonne de notre absence, tu lui diras que vers midi nous rentrerons sûrement. »« À moins, » ajouta-t-il après un silence, « à moins d'accident imprévu. » Il faisait dehors nuit grise et triste, mais sans brume, et la mer éclairait. Le père marchait très vite, et nous étions obligés de trotter pour le suivre. Il était songeur, préoccupé, c'était l'heure de la demi-marée. Notre barque était encore à flot dans la crique rocheuse où d'habitude on la mouillait. Quand nous fûmes à bord, le père, qui jusque-là n'avait pas desserré les dents, nous dit « Mettez-vous aux avirons et nagez en silence. » Mes frères me l'ont avoué depuis. À ce moment-là, ils eurent, comme moi, le cœur étreint d'une vague angoisse. L'oppression d'un malheur était sur nous. Le père, accoudé à la barre, regardait devant lui au loin, de l'air d'un homme absorbé en des pensées graves. L'eau, à peine ridée, luisait d'un éclat mat, comme endormi. Nos rames ne faisaient pas plus de bruit que si on les eût plongées dans de l'étoupe. Comme nous tournions l'île Saint-Gilda, nous aperçûmes la silhouette d'un navire qui fuyait, grand largue. Les courants sont terribles dans ces parages. À quelques encablures se dressait Arvroac, une roche âpre et haute, ainsi nommée à cause de sa forme, qui est celle d'une vieille accroupie. « Voilà où il faut aborder, » dit le père. « Souquez ferme, les enfants. » Il se pencha pour prendre au fond de la barque un rouleau de corde et en noua une des extrémités solidement autour de ses reins. Un ressac violent battait les flancs de la roche. Nous parvînmes cependant à le dompter. « Attrape, Job !» me cria le père en me lançant l'autre bout de la corde. D'un bond, au risque de se tuer 1000 fois, il avait sauté sur la roche. Notez, monsieur, qu'il avait alors 57 ans sonné, souple comme un chat, malgré son âge. « Filez la mare, nous dit-il, mais ne lâchez que si je vous l'ordonne. » Il nous avait souvent employés à des besognes de ce genre. Nous savions ce que nous avions à faire. Nous maintenir dans les eaux calmes, sans toutefois que la mare se tendît au point d'entraver les mouvements de Yann Igrok. Nous restâmes là, penchés sur nos avirons, prêts au moindre appel. Arvroac était une des cachettes de recel pour la fraude, la plus dangereuse, partant la moins suspecte. Le navire que nous avions aperçu, gagnant le large, venait sans doute d'y déposer de la marchandise, et c'était cette marchandise, emmagasinée dans une fente de la pierre comme dans une armoire, que le père dégageait avec précaution, de peur d'endommager les ballots. Nous le regardions aller, venir, extraire les paquets de toutes formes et les empiler sur une étroite corniche au pied de la roche. Les douaniers, ma foi, nous n'y pensions guère. D'abord, ils ne paraissaient jamais dans l'île. Et puis, à moins d'une trahison, il ne pouvait leur venir à l'esprit de surveiller Arvroac. Sur les eaux assoupies régnait un vaste silence, un silence émouvant tellement il était profond. Tout à coup, le bruit sec d'une détonation retentit. Je crois l'ouïr encore. Jacques, le frère aîné, avait baissé vivement la tête. « Père, dit-il, on tire sur nous. J'ai entendu siffler la balle. » Le père répondit. « Larguez la mare, hissez la voile et gagnez au vent. »« Mais vous, criâmes-nous d'une seule voix, 1 000 millions de tonnerres, faites donc ce que je vous dis. » Il n'y avait pas à répliquer. Avec lui, il fallait obéir au doigt et à l'œil. Je larguais la mare, tandis que Jacques hissait la misaine et que Pierre empoignait le gouvernail. Tout cela fut l'affaire d'une seconde. Là-bas, dans les rochers de l'île, des torches s'allumaient. Un homme muni d'un porte-voix lança dans la nuit cette phrase en breton. « Ohé, oh, Yann Igrok, nous savons que c'est vous. N'essayez pas de fuir, nous mettons la péniche à vos trousses. Nous vous aurons cette fois, vivant ou mort, à votre gré. » Je vous redis la chose mot pour mot. Tous les détails de la scène me sont présents à la mémoire, comme si cela datait d'hier. Les gabelous ne doutaient pas que Yann Igrok ne fût dans la barque. Voyant que nous gagnions le large, ils nous détachèrent une seconde bordée de coups de fusil. Les balles passèrent au-dessus de nous, trouant le foc et la grand voile. Le père, lui, nous criait « Lof, lof, serrez le vent !» Derrière nous, sur les houles calmes, la péniche des douanes semblait voler, enlevée à force de rames par des bras solides. Nous n'avions, nous autres, que des points de mousse ou de novice, des points de gringalet trop jeunes. Et quant à la toile, elle nous gênait au lieu de nous servir flasque et flottante le long du mât, car c'était le moment de la basse mer, et le vent, en cette saison, ne monte qu'avec le flux. Entre la péniche, effilée comme une pirogue, et notre embarcation lourde et ronde comme un vrai sabot, la lutte était inégale. Nous nous sentions vaincus d'avance. Le père sans doute le comprit et se sacrifia. Ohé, les gabelous, si c'est le homard qu'il vous faut, à quoi bon courir après les crabes? Vous cherchez Yann Igrok? Il est ici, à votre disposition, messieurs. Assis au pied du mât dont je tenais la drisse, je n'avais pas perdu de vue le rocher. Mon père m'apparut debout sur la cime de pierre, avec sa haute silhouette noire nettement dessinée sur le fond grisâtre du ciel que les premières lueurs de l'aube commençaient à blanchir. La péniche cessa de nous poursuivre et vira de bord. Un des hommes, le patron, je pense, prononça. C'est bien lui. Un autre dit d'une voix goguenarde.
« Ah ah, Yann, nous t'y pinçons cette fois !»«
Toi, Jean Karadec, s'écria mon père, tu as parlé trop tôt. Parions qu'où je vais, tu ne viendras pas me chercher. »
En même temps, il faisait un grand signe de croix. « Comme ceci, tenez, comme ceci, je le vois encore, en vérité. » « Oui, et j'entends aussi sa prière.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Cela dura peut-être 1 minute, pas même. » Son oraison terminée, il dit « Kenavo, Eflamina. » Eflamine était le nom de ma mère. Cet adieu arriva jusqu'à nous, très distincte. Sur mer, la nuit, les moindres paroles ont d'étranges sonorités. Après cela, un plouf, et ce fut tout. Ni Jean Karadec, ni aucun de ses compagnons n'osèrent plonger là où venait de disparaître Yannick Roque. Ainsi mourut le grand fraudeur. La mer n'a jamais rendu son cadavre.